pas à le dire. Surtout toi. Voilà. Donc on va parler de la fidélité. Donc la fidélité. La fidélité, elle est envers quelqu'un et à une promesse ou à un ordre reçu. Ça veut dire qu'on va réaliser la promesse ou la mission dans le détail, minutieusement, dans le détail, et sur la durée de la mission, ou sur la durée de notre engagement. Donc je vous propose de voir trois points dans lesquels on peut appliquer cette fidélité. D'abord, j'aimerais faire un petit aparté technique. Dans le texte de Galates 5, le mot fidélité est un mot grec qui est souvent traduit par foi. Donc il y a des personnes qui disent que ça aurait dû être foi plutôt que fidélité. Il y a un texte dans l'Épître aux Romains où Paul parle des Juifs et il dit « Leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ?» Et c'est le même mot. On ne peut pas parler de foi de Dieu, donc c'est bien le mot fidélité, il n'y a pas de problème de traduction. Je vais commencer par la fidélité par rapport à la vérité. On peut lire Hébreux 11, on a déjà parlé de Abraham et Sarah. Hébreux 11 précise le sentiment de Sarah. Hébreux 11, verset 11. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. Donc Dieu, lui, il est fidèle. Mais est-ce que nous, on l'estime toujours fidèle? C'est là la question. C'est par notre fidélité que Dieu va créer quelque chose de merveilleux, quelque chose de vivant. C'est ça que Dieu veut faire. Comme Sarah, elle a eu un fils par sa fidélité. Mais Sarah, elle a compris autre chose. Elle a compris que la promesse, c'était en même temps un mandat. Dieu nous fait des promesses, mais la promesse comprend un mandat. Donc certainement, elle avait 90 ans, elle devait espérer avoir un enfant, et elle a fait ce qu'il fallait. C'est sa foi qui lui a donné la force d'être fidèle dans ce mandat. On ne peut pas être fidèle sans les promesses de Dieu. Je vous propose un exemple de promesse par rapport à la vérité. Dans Zacharie 8, au verset 15, il est dit « Ainsi, j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci à faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. » Prophétiquement, Jérusalem, c'est l'assemblée. Ne craignez point, ce sont ici les choses que vous ferez. Parlez la vérité, chacun à son prochain. Ce verset est repris par l'apôtre Paul dans les Éphésiens. Jugez selon la vérité, prononcez un jugement de paix dans vos portes. Et ne méditez pas le mal dans vos cœurs, chacun contre son prochain. Et n'aimez pas le faux serment, car toutes ces choses-là, je les hais, dit l'Éternel. Donc voilà, Dieu promet de faire du bien. De faire du bien à Jérusalem, de faire du bien à notre assemblée. Et pour cela, il y a besoin que nous, on dise la vérité. C'est si on croit que Dieu est fidèle à cette promesse, alors on dira, nous aussi, la vérité. On ne dira pas « c'est impossible », ni « personne ne m'écoutera ». On dira « c'est dans cette attitude que Dieu fera du bien ». Dire la vérité, ce n'est pas dire les quatre vérités à son frère. C'est être un messager de la vérité de Dieu. Jacques nous donne un exemple de cette vérité. Quand il nous dit, au lieu de dire « je vais faire ceci, je vais faire cela », et de dire « si le Seigneur le permet ». Parce que c'est ça la vérité. Pour les enfants, poser un exemple. Voilà, un enfant qui réussit bien en classe, il peut dire « qu'est-ce que je suis fort ?» Ça, c'est une vérité. Mais il peut aussi dire « Merci Seigneur pour cette belle réussite. » une vérité complémentaire, mais qui est la vérité de Dieu. D'être un autre exemple, suite à une réunion où le message était peu profitable, on peut dire, si c'est pour ça qu'on vient ici, autant rester chez soi. Ou on peut dire, c'était ma première pensée, mais prions que le Seigneur nous fortifie en sagesse et intelligence spirituelle afin que nos réunions soient plus profitables. La vérité de Dieu, elle est plus belle. Dans ce cas-là, la première phrase, elle communique une frustration, une rébellion, alors que la deuxième, elle communique la gratuité de Dieu, une espérance. Donc cette fidélité a des conséquences, peut-être une conséquence très intéressante. Dans Proverbe 25, au verset 13, il est écrit « La fraîcheur de la neige au temps de la moisson, tel est le messager fidèle pour ceux qui l'envoient. Il restaure l'âme de son maître. » Notre fidélité, c'est une véritable source de joie pour notre Dieu. De la même manière qu'il a été dans une grande joie en voyant son Fils, le Seigneur Jésus, sur la terre. De la même manière, il se réjouit de notre fidélité. Il dit au serviteur fidèle, « Entre dans la joie de ton maître. » Ce n'est pas seulement au retour du Seigneur qu'on entre dans cette joie. Quand on a été fidèle, dans une circonstance peut-être difficile, on n'a pas forcément un résultat de ce qu'on a fait, mais on a cette joie de Dieu. Donc, un autre point, la fidélité dans la justice. Je voudrais lire Luc 18, verset 7. Dieu, donc c'est le parabole la parabole du juge inique. C'est cette dame qui crie après le juge jour et nuit pour qu'il lui fasse justice. Et le Seigneur Jésus dit, Dieu, ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Mais il use de patience avant d'intervenir pour eux. Je vous dis que bientôt il leur fera justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? C'est une question que pose le Seigneur Jésus. Il se la pose à lui. Hein. Est-ce qu'il va trouver des personnes comme ça, qui crient à Dieu jour et nuit pour qu'il fasse justice? Nous désirons être ces personnes que le Seigneur Jésus trouve sur la terre. Donc ça, la prière, la fidélité dans la prière pour la justice, c'est une très belle fidélité. Elle montre qu'on attend de Dieu le résultat de chacune de nos actions. Ce n'est pas n'importe quelle justice. C'est la justice de Dieu en Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus, il a donné sa vie pour notre bénédiction. C'est pour cela que le juste juge nous fera justice. On peut voir des choses injustes, par exemple, il y a tellement de chrétiens qui vivent dans la peur. Ils sont maltraités par l'ennemi, le diable. Il y a des chrétiens qui sont enchaînés dans des passions, comme l'alcool ou le jeu. Il y a aussi des chrétiens qui sont persécutés, humiliés. Et dans nos cœurs, nous réclamons tous la justice pour toutes ces personnes. Par exemple, si on voit un frère qui est vaincu par la haine, emprisonné dans sa rancœur, est-ce qu'on ne va pas crier à Dieu pour la justice, pour qu'il soit vainqueur? Parce que Jésus-Christ a acquis sa liberté à la croix. Ce n'est pas juste qu'il soit dans cet état. On a parlé aussi de la persécution. Quand on voit la persécution, on peut appeler à la justice de Dieu. Les psaumes de David sont des appels constants à la justice de Dieu. Des fois, ils nous effraient, tellement ils ont l'air violents. Et pourtant, Dieu, il fera justice. Et ne soyons pas mous dans la justice. La justice, elle est nécessaire. Il y a une description que j'aimerais lire de celui qui est juste dans Ésaïe 11, au verset 1. il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe. Une branche de ses racines fructifiera. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. Son plaisir sera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux et il ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles, mais il jugera avec justice les misérables. Et il reprendra avec droiture les débonnaires de la terre. Il frappera la terre avec la verge de sa bouche. Par le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité la ceinture de ses flancs. C'est une merveilleuse description de notre Seigneur, le seul juste. Et pourtant, lui aussi, ce qu'il a maintenu, sa ceinture, c'est la justice de Dieu et la fidélité de Dieu. On peut lire cette justice, cette fidélité dans Deutéronome 32, verset 3. Je proclamerai le nom de l'Éternel, attribuer la grandeur à notre Dieu. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont justice, c'est un Dieu fidèle, il n'y a pas d'iniquité en lui, il est juste et droit. C'est cette justice de Dieu qui va maintenir notre justice, cette fidélité de Dieu qui va maintenir notre fidélité dans la justice. Mais retenons bien que nous ne pouvons pas juger d'après la vue de nos yeux, ni selon l'ouïe de nos oreilles. C'est utile, mais ce qui est absolument, mais c'est pas suffisant. Il faut l'Esprit de Dieu, la justice de Dieu qu'on voit dans la Bible. Troisième point, j'aimerais parler de la fidélité qui est la sainteté. Donc on a vu la fidélité dans nos paroles, la fidélité dans nos actes, et là c'est la fidélité dans nos sentiments, dans notre être intérieur, dans notre attachement. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 23, Seigneur Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est encore le même mot que dans Galates 5. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Les pharisiens semblaient bien faire attention aux détails de la loi. Et Jésus leur montre qu'ils laissaient le principal. Alors le mot fidélité ne se trouve pas dans la loi. Et pourtant, si on lit les commandements dans Exode 20 ou dans Deutéronome 5, il commence comme ça. Dieu dit, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. » Etc. « Je suis l'Éternel, ton Dieu. » Dieu est à nous. Il s'est donné, le Seigneur Jésus s'est donné pour nous. Et Dieu est notre Dieu. C'est une propriété. Comme le mari est le mari de sa femme, et sa femme est la femme de son mari. Dieu est ton Dieu. Et Dieu, lui, il le reste toujours. Il reste fidèle à ce rôle. Aimez-nous. Cette fidélité de Dieu, elle est représentée sur la terre dans le mariage d'un homme et d'une femme, uniquement le mariage d'un homme et d'une femme. Les tentations contre cette fidélité, cette exclusivité pour Dieu, c'est notamment l'argent. C'est de ça que parlait le Seigneur Jésus aux pharisiens, en leur parlant qu'ils avaient laissé la fidélité. Ils aimaient l'argent plus que Dieu. Mais il peut y avoir d'autres choses qu'on aime plus que Dieu. Et le remède, le côté positif de la fidélité, c'est le plaisir, la joie. La joie qu'on prend dans cette personne qui est à nous et à qui on appartient. vais lire 1 Corinthiens 7, verset 25. Pour ce qui est de ceux qui sont vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion comme ayant reçu miséricorde du Seigneur pour être fidèle. Voilà, pour un célibataire, sa joie, son plaisir, son désir de plaire, il est tourné vers Dieu. Et puisque Dieu lui demande cela, il lui fait aussi la miséricorde d'être fidèle. C'est aussi de Dieu qu'il l'attend. C'est pas de son opiniâtreté, c'est de Dieu. Mais pour les personnes mariées, il dit « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié a le cœur occupé des choses du Seigneur, comment il plaira au Seigneur. Mais celui qui est marié, il a le cœur occupé des choses du monde, comment il plaira à sa femme. » Il y a une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée a le cœur occupé des choses du Seigneur, pour être sainte, et de corps et d'esprit. Mais celle qui s'est mariée a le cœur occupé des choses du monde, comment elle plaira à son mari. Pour une personne mariée, cette sainteté envers Dieu se matérialise d'abord dans la fidélité à son conjoint. Bien sûr, la fidélité à Dieu est nécessaire en premier, mais dans nos actions sur la terre, les choses qu'on fait sur la terre, cette fidélité à Dieu va se manifester dans la fidélité à son conjoint. C'est le premier devoir d'une personne mariée. Cette fidélité, donc, c'est de donner de la joie et du plaisir à son conjoint et de rechercher sa joie et son plaisir en son conjoint. Et je pense que peut-être pas beaucoup, mais ça peut arriver dans un couple qu'au bout d'un certain temps, on se mette à ne plus trouver de joie ou de plaisir dans son conjoint. Et on se dise, voilà, ben, c'est normal, il y a quelque chose qui est parti, ben, je vais trouver ma joie dans mon travail, ou dans mon service pour le Seigneur, ou etc. Mais le mandat que Dieu nous a donné dans le couple, c'est celui-là, de trouver sa joie et son plaisir, cette passion, cette chose que Dieu a pour nous et que nous avons envers Dieu et qu'on peut avoir dans le couple. Et si Dieu l'a dit, si Dieu l'a proposé, c'est lui qui le fera. Nous avons des choses à faire, bien sûr, mais nous devons compter sur Dieu pour le faire. Voilà, si cette joie, ce plaisir est parti, il y a des conseils assez pratiques. Déjà, regardez son conjoint. Regardez pour le voir non pas avec des yeux critiques, mais voir cette personne qui est restée avec nous si longtemps, qui s'est donnée à nous, cette personne qui a souffert, cette personne qui peine, et qui continue courageusement chaque action dans sa vie. Et avec en regardant son conjoint, déjà Dieu crée en nous quelque chose, une passion pour lui. Et puis dans les actions, un mot gentil, un petit cadeau, un temps complet, lui épargner des reproches, etc. Pas dans le but d'un retour, parce qu'on s'est d'abord offert à Dieu et ensuite offert à son conjoint. Voilà. Et il y a aussi, rapidement, la fidélité envers l'Église. Je vais lire un passage de Malachie. Malachie 2, verset 10. Pourquoi agissons-nous perfidement, chacun envers son frère, en profanant l'alliance de nos pères? Judas a agi perfidement, l'abomination se commet en Israël et dans Jérusalem. Judas a profané le sanctuaire de l'Éternel, qu'il aima. Il a épousé la fille d'un dieu étranger. Au verset 13, en second lieu, voici ce que vous faites. Vous couvrez l'autel de l'Éternel de larmes, de pleurs et de gémissements, de sorte qu'il n'a plus égard à l'offrande ni de l'agré de vous-même. Et vous dites, pourquoi ? C'est parce que l'Éternel est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse envers laquelle tu as agi perfidement. Cependant, elle est ta compagne et la femme de ton alliance. Dieu a désiré que ses enfants, les croyants, vivent ensemble avec lui, unis à son Fils Jésus-Christ, en une harmonieuse communion d'amour qui produise la joie et le plaisir en esprit et des nouvelles naissances spirituelles. C'est cela l'Église, ce n'est pas une organisation. Là, nous voyons ce reproche que Dieu fait, vous couvrez mon autel de larmes. Bien sûr, il y a des sujets de tristesse, mais il y a d'abord cette joie immense. Quand on considère les frères et sœurs qui composent notre assemblée, la passion que Dieu leur porte. Si on les regarde vraiment, avec des yeux de Dieu, on peut dire, eh bien alors on peut se réjouir, on se réjouira de tous ces croyants que Dieu a réunis.